Là, dans 1 Pierre, chapitre 1, et juste un verset. J'attire votre attention surtout sur ces petites expressions de liaison. C'est pourquoi, quand cette expression de liaison apparaît, l'auteur va faire référence à tout ce qu'il vient de développer juste précédemment. Et donc, c'est le cas ici pour l'apôtre Pierre. Donc, il arrive au verset 13, où il y a un tournant dans ses pensées. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a quelques temps, nous avons déjà été sur ce verset et nous avons eu l'occasion uniquement de porter un message sur le premier point, saignez les reins de votre entendement. Je voudrais juste faire un rappel que du verset 1 à 12, l'apôtre Pierre va rappeler à ces chrétiens qui souffraient ce qu'ils sont devenus en Christ pour les encourager dans cette situation de persécution. Et à partir du verset 13, il va tourner ses pensées et il va revenir à développer un thème qui lui est très cher, à savoir donc une vie de sanctification chaque jour dans leur quotidien. Et il va développer ça jusqu'au chapitre 2, et même au-delà du chapitre 2, il va encore parler de cette vie sainte dans le quotidien, dans différents aspects. Je dirais donc qu'il va toucher beaucoup de domaines de l'éthique à partir de ce verset 13. Nous nous arrêtons juste donc à ce verset, et nous avons vu la dernière fois, et nous avons intitulé le message « La préparation de la pensée en vue d'agir ». Et nous avons parlé de cette exhortation « Préparez-vous à penser ». Et nous avons laissé de côté, à ce moment-là, le deuxième exhortation « Soyez sobre ». Où je formulerai un peu « Contrôlez-vous vous-même ». Et troisième point que nous avons laissé dans cette exhortation aussi, « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce que je vais formuler autrement, « Ouvrez-vous totalement à l'espérance. » J'aimerais juste rappeler un point que nous avons développé, je dirais rapidement les trois points. Pourquoi se préparer à penser? On avait dit « En vue d'agir ». Pourquoi? Parce que nos pensées ont une influence sur notre conduite. Je ne veux pas revenir là-dessus. Nous avons vu aussi que nos pensées ont une influence sur notre personne. Et nous avons vu que nos pensées peuvent devenir des forteresses d'idéologie qui peuvent être difficiles à démolir ou à extirper. Donc, juste ce matin, avant d'attaquer donc ce deuxième point de l'exhortation, « Soyez sobres », vous rappelez quelque chose qui m'a touché personnellement, parce que nos pensées ont une influence sur notre personne. Alors, pourquoi pas saisir alors, dès le jeune âge, pour nos enfants, pour que nous puissions une influence positive pour nos enfants. Pourquoi cela? Parce que ça m'a parlé d'une manière très personnelle. J'ai lu quelques articles qui citent ceci, qu'il est établi que 85% de la personnalité adulte est déjà formé à l'âge de 6 ans. Je répète, il est établi que 85% de la personnalité adulte est déjà formée à l'âge de 6 ans. Donc en tant que parent, c'est une grande opportunité de saisir, au moins jusqu'à l'âge de 6 ans, à leur inculquer la parole de Dieu, l'amour pour Dieu, l'intérêt pour les choses de Dieu, pour qu'à leur tour, aussi, ils peuvent choisir par eux-mêmes quand ils décideront d'être convaincus par l'Esprit de Dieu de besoin de sauveur, et ça changera leur vie. Mais autre statistique qui me parlait aussi personnellement, c'est 5% des jeunes entre 15 et 20 ans considèrent la recherche spirituelle comme une valeur fondamentale de la vie. Seulement 5%. Et c'est une étude qui a été faite en Europe. Entre 15 et 20 ans, seulement 5% des jeunes considèrent la recherche spirituelle comme une valeur fondamentale de la vie. Donc, en tant que parents, ça doit nous interpeller. Quelles sont les aspirations de nos enfants? Sont-ils, je me posais la question, passionnés par Jésus-Christ? Comme je vous ai dit, il est important donc de saisir cette opportunité des premières années de la vie pour que nous puissions développer la piété de nos enfants, sachant que ça sera très difficile plus tard. Ce qui est formidable, c'est que Dieu nous donne les outils. Dieu veut nous équiper. Regardez Deutéronome, où je voudrais juste vous rappeler quelques points clés, et c'était donné aux parents juifs, ce que nous lisons en Deutéronome, pour qu'ils puissent ne pas être désarmés, au contraire, armés pour cette mission, cette tâche. Deutéronome 6, verset 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Je veux juste revenir au verset 2, quand il a donné donc ces commandements, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Verset 3, tu les écouteras donc Israël et tu auras soin de les mettre en pratique. Vous voyez le lien entre l'écoute et la mise en pratique, c'est indissociable. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que j'entends par développer la piété de nos enfants? Je pense tout simplement, je suis convaincu que non seulement qu'ils puissent voir notre instruction, mais surtout aussi notre vie. Que nous aimons le Seigneur, que nous vivons pour le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, ils puissent à leur tour aussi désirer pour eux-mêmes de donner leur vie à Jésus-Christ. Dans ce passage que nous venons de dire dans Deutéronome, il y a les clés qui nous est données. Au verset 5, je vois d'abord pour les parents d'aimer Dieu. Il est dit de tout votre cœur, de toute ton âme. Deuxième point que je voudrais souligner, aimer la parole de Dieu. Il est dit au verset 6, que ses commandements seront dans ton cœur. Donc non seulement aimer Dieu, que ça soit une réalité dans notre vie, aimer la parole de Dieu. Mais, troisième point, la clé qu'il nous donne, tu les inculqueras à tes enfants. Et c'est très intéressant que l'idée ici, c'est aiguiser la parole, par la parole, la pensée de nos enfants. Parce que inculquer en hébreu veut dire aiguiser, littéralement. Donc, ça c'est un des points clés. Pourquoi? Parce que nous avons dit que nos pensées influencent notre personne. Et dès jeune âge, nos caractères d'adultes sont formés avant l'âge de 6 ans. Et donc, il est important que nous puissions aiguiser la pensée de nos enfants par la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu puisse les éclairer. Et dans des situations précises, pour qu'ils puissent être armés. J'ai trouvé un meilleur exemple, illustration de cette manière. Comment aiguiser les pensées de nos enfants par la parole de Dieu? Jésus-Christ lui-même a donné un exemple, je trouve formidable, quand il parlait. Regardez en Matthieu 6, verset 25, et surtout verset 28 et 29. Comment, chaque jour, nous pouvons aiguiser les pensées de nos enfants par la parole de Dieu, afin que, à leur tour, ils puissent être convaincus par l'Esprit de Dieu et donner leur vie aussi pour Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 28 et 29. Le contexte, c'est l'inquiétude. Vous pouvez voir depuis le verset 25, et je lis à partir du verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Là encore, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ amène à ouvrir les yeux et pour aiguiser leur pensée de regarder sur la création. Et ils tirent les leçons à partir de ce qu'ils observent, à leur ramener que Dieu est l'origine de ce qu'ils voient. Et tirer une application, vous voyez, vous valez plus que même ces oiseaux, parce qu'ils prennent soin de vous. Vous voyez comment on peut aiguiser les pensées de nos enfants à ce que Dieu soit présent dans tous les contextes de leur vie pour qu'ils puissent voir le lien, que ce n'est pas fait comme ça au hasard. Ici, les lits des champs, les oiseaux du ciel, on peut tirer des applications pour la vie quotidienne. Et c'est ce que Jésus fait. Et donc, chers parents, pour nous encourager, nous avons nos enfants comme un don de Dieu. Ils nous sont prêtés juste pour un temps. Et notre influence, je dirais, est capitale pour leur devenir spirituel. Donc, ne négligeons pas cette responsabilité parce que l'enjeu est de taille. Si nous ne le faisons pas, c'est le monde qui va le faire. Et le monde n'enseigne pas la parole de Dieu ni les principes divins. C'est le contraire. Et donc, c'est une responsabilité importante. Revenons-nous maintenant aux deuxièmes exhortations. Contrôlez-vous vous-même. Ou dans le texte, c'est « Soyez sobre ». D'abord, j'aimerais juste définir qu'est-ce qu'on entend par sobriété ou être sobre. Littéralement, sobre, c'est la traduction du grec néphalios. Et littéralement, cela veut dire non mêlé du vin, ou si vous voulez, sans vin. Et donc, dans un sens métaphorique, néphalios signifie être alerte, vigilant ou être lucide. Être sobre, donc, c'est une expression qui souligne la discipline, le contrôle de soi, la surveillance des circonstances. Parce que être sobre, c'est aussi posséder une force de caractère qui permet de s'abstenir de tout excès susceptible d'atténuer notre vigilance. Ce matin, ce que j'aimerais vous faire, c'est qu'on regarde, selon l'éclairage de l'apôtre Paul, et selon l'éclairage de l'apôtre Pierre, ce que signifie être sobre. Donc vous avez devant vous 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 5 à 8, où selon Paul, l'utilisation de cette expression être sobre, ici, nous lisons, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et voilà, soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Ici, je voudrais juste vous faire remarquer déjà le fondement, d'abord le contexte de ce que Paul est en train de dire concernant cette attitude d'être sobre. Le contexte ici, c'est que les chrétiens sont des gens réveillés au milieu d'un monde endormi. Nous sommes des enfants du jour, nous ne sommes pas de la nuit. Donc nous sommes réveillés au milieu d'un monde endormi. Je vous dis tout simplement que la nuit du péché est autour de nous. Nous pouvons le constater. Et ça peut être un danger pour nous parce que nous risquons d'être aussi indifférents aux choses spirituelles et finalement insensibles aux choses de Dieu. D'où cet avertissement au verset 6.
ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ça, c'est le contexte. Mais regardez le fondement de cette exhortation. Le fondement de cette exhortation, donc, en premier lieu, ça, la base est ce que sont les chrétiens, ce qu'ils sont devenus en Christ, et la base de l'exhortation lui-même. Regardez verset 5. Verset 5, il dit, ils sont du jour. Ils sont lumière. C'est ce que nous sommes. Vous pouvez vérifier aussi dans Éphésiens 5, 8. Donc, notre position en tant que chrétien, ce que nous sommes devenus en Christ, est la base de l'exhortation, être sobre. Et en deuxième lieu, nous observons aussi dans ce verset un contraste entre ceux de la nuit et ceux du jour. Vous regardez au verset 7, le sommeil et l'ivrognerie, ils définissent l'insensibilité, l'indifférence de ceux qui sont de la nuit par rapport aux réalités spirituelles. Mais vous constatez aussi le contraste au verset 6, la vigilance et la sobriété décrivent par contre la sensibilité de ceux qui sont du jour par rapport aux réalités spirituelles. Donc frères et sœurs, soyons vigilants, soyons sobres, parce que nous sommes dans un monde endormi, dans un monde de ténèbres, et combien nous avons besoin d'être réveillés, d'être sobres, sinon nous risquons aussi de nous endormir. Donc voilà le contexte dans lequel Paul adresse cette exhortation d'être sobre, d'après 1 Thessaloniciens 5, versets 5 et 8. Regardons maintenant l'éclairage de Pierre, où je voudrais vous inviter à regarder 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Il va utiliser la même exhortation d'être sobre. Ici, il dit, dans le contexte, quel est le contexte ? La fin de toute chose est proche. Ça, c'est le contexte. Et à la base, donc, de ce contexte, il va donner l'exhortation. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je ne sais pas si, quand vous regardez ce passage, il y a quelque chose qui intrigue. Ce qui m'intrigue énormément, c'est qu'est-ce que Pierre veut dire, la fin de toute chose est proche. Qu'est-ce qu'il entend par cela? J'essaie de me documenter. Regardez un peu ce qu'ont pensé les gens qui ont écrit énormément de documents là-dessus. Qu'est-ce qu'il entend par la fin? Il y en a ceux qui pensent que c'est la destruction de Jérusalem. J'ai lu aussi par ailleurs, il y en a ceux qui pensent que c'est l'enlèvement de l'Église. Il y en a d'autres qui pensent que c'est le retour de Christ pour régner ici-bas sur terre. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la destruction des cieux et de la terre à la fin du règne de 1000 ans, de Christ sur terre. Mais je me posais la question, comment la Bible peut nous répéter que depuis plusieurs milliers d'années, avant le retour de Jésus-Christ, que la fin du monde est proche? Comment la Bible peut-elle répéter plusieurs milliers d'années avant le retour de Jésus-Christ que la fin du monde est proche? Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il entend par la fin. Donc, tout dépend du sens attribué à cette expression. Il me semble, d'après ce que je vous ai cité là, ça ne convient pas dans le contexte ici, ces quatre sens que je viens de vous énumérer. Il me semble plutôt que la fin ici ne dit pas la date finale. Est-ce que vous avez entendu parler il y a quelque temps, il y a un certain personnage très respecté qui dit que la fin du monde va être telle date. Donc, il ne s'agit pas d'un calendrier, une date où ça sera la fin du monde. Il y a mes élèves me font rappeler aussi, monsieur, vous savez qu'en 2012, c'est la fin du monde, le calendrier Maya, parlait de cela. Donc, ici, si vous le prenez dans le sens, vous avez tout faux. Ici, donc, ce n'est pas le sens de la date finale du calendrier. Mais, me semble-t-il, à mon niveau, ça voulait dire tout simplement que Dieu est prêt à intervenir dans notre situation. Je répète, ça veut dire tout simplement que Dieu est prêt à intervenir dans notre situation, et je dirais dans la situation de notre monde. Et ça colle, pour moi, au contexte, je vous invite de le vérifier par vous-même, en lisant chez vous un Pierre, que ces chrétiens n'oublions jamais qu'ils étaient sous la souffrance à cause des persécutions. Et donc pour eux, le fait de savoir que Dieu est prêt pour intervenir dans leur situation est une grande source d'encouragement. Donc, le fait de savoir que la fin est proche, c'est-à-dire que Dieu est sur le point d'intervenir dans la situation difficile qu'ils sont en train de traverser, pour eux est une source d'encouragement. Et combien pour nous aujourd'hui aussi. Cette semaine, combien on a entendu de nos frères et sœurs que nous avons vus il y a 2 semaines en bonne santé, malades. Certains gravement, d'autres proches de la mort. Vous imaginez? Dans toutes ces souffrances, quand nous sommes conscients que Dieu peut à tout moment prêt à intervenir dans notre situation, combien cela est une source d'encouragement. Et c'est pour cela, vous lisez à la suite maintenant, Pierre peut leur dire, une fois qu'ils sont rassurés de cela, il peut leur dire, soyez maintenant donc sobres, afin d'être disponibles pour prier. Il est vital, je dirais, pour les chrétiens de prier. Alors, je demande à chacun d'entre nous, qui d'entre nous peut rester ferme dans la foi face à des persécutions sans la prière? Si on est honnête, ce n'est pas possible en tant que chrétien. Qui peut rester ferme au sein des persécutions sans la prière? Donc, dans les épreuves, les afflictions, l'opposition, c'est la prière qui nous aide à garder la tête froide, je dirais. C'est-à-dire, ne pas laisser les circonstances nous contrôler pour ainsi perturber notre relation avec Dieu, mais au contraire, avoir le contrôle de nos circonstances pour qu'elle puisse devenir une opportunité pour Dieu, pour qu'il puisse accomplir en nous ses desseins en vue de notre sanctification. Et c'est le sujet que nous sommes en train de parler. Préparation de nos pensées en vue d'agir. Être sobre, se contrôler soi-même, en vue du jour du retour du Seigneur. Donc ça c'est un premier point important ici. Combien c'est une source d'encouragement de savoir que le Seigneur est prêt pour intervenir dans notre situation et cela doit nous encourager. Regardons ensemble encore notre éclairage de la part de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5, versets 7 et 8. Il dit au verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et voilà l'exhortation, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Au verset 7, les chrétiens sont exhortés à mettre leur confiance en Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être négligents. Et c'est pour cela que Pierre les informe qu'ils doivent être sobres. Pourquoi? Parce qu'ils ont un adversaire. Souvent, nous ignorons cette réalité. Nous avons un adversaire décrit ici comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, vous le savez, c'est le calomniateur. Et ici, nous voyons donc qu'il peut se présenter de différentes manières. Parfois, sous forme d'un serpent, pour séduire et entraîner les hommes dans la corruption. Et parfois, il se déguise, dit la Bible, en ange de lumière, dans le but de tromper dans le domaine spirituel. Et ici, comme un lion rugissant, dans le but de terroriser le peuple de Dieu par la persécution. Il me semble, un commentateur disait, que ici peut-être Pierre fait allusion aux horreurs de persécution à l'époque de Néron, l'empereur romain, et il fait allusion dans le Colisée de Rome, où il y avait des lions qui dévoraient les chrétiens, et les Romains se réjouissaient en voyant ce spectacle horrible. Et il fait le lien ici peut-être Pierre, en ayant en pensée ces scènes-là, et il veut dire que Satan fait la même chose dans le domaine spirituel. Il veut réduire à néant le témoignage des chrétiens. Donc nous devrions être vigilants. Mais vous savez, la chose certaine, c'est que Satan ne réussira jamais ce but-là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a confirmé et l'a dit, « Je bâtirai mon Église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et ça, ça a été vérifié. Notre frère Timothée nous a parlé des aperçus un peu de l'histoire de l'Église. Ces périodes de persécution, ce n'est pas pour autant que l'Église de Jésus-Christ a été détruite. Et donc, le but escompté par Satan a été déjoué. Parce que, au contraire, et nous voyons même dans l'Acte des Apôtres, où le pasteur fait la série de messages là-dessus, que souvent c'est dans les contextes de persécution et d'opposition que l'Église s'agrandit. Et je dirais aussi, l'Église se purifie. Et je peux ramener à notre niveau en tant que chrétien. Le Seigneur a un plan merveilleux. Vous savez que, est-ce que vous l'avez remarqué pour vous-même ? Que c'est pas quand tout va bien que vous grandissiez normalement, spirituellement. C'est souvent, si vous le remarquez, c'est dans les moments de difficulté et à travers ces circonstances que nous pouvons et nous grandissons. Et donc, Dieu a un plan merveilleux pour les circonstances, ici pour ces chrétiens d'Asie, où l'apôtre Pierre leur adresse cette exhortation, c'est dans les circonstances difficiles, dans ces moments de souffrance, que nous puissions grandir, que nous puissions progresser dans notre marche et notre confiance dans le Seigneur. Mais sachant donc que la sobriété doit toujours nous caractériser pour être constamment sur nos gardes, parce que nous avons un adversaire, cet adversaire ne se repose pas. Je voudrais terminer en ayant vu donc ces éclairages, selon l'apôtre Paul, selon l'apôtre Pierre, de l'utilisation de l'expression « être sobre ». Mais, pour terminer, il leur exhorte aussi, et je formulerai donc, comme je vous l'ai dit, « ouvrez-vous totalement à l'espérance ». Il dit « ayant une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra ». L'idée ici, dans ce passage, c'est que le retour de Jésus-Christ doit servir de base à la vie chrétienne, notre vie actuelle. Autrement dit, l'espérance future doit profondément marquer notre existence présente, c'est-à-dire notre vie de tous les jours. Et vous savez, par rapport au monde, nous pouvons démontrer ainsi l'authenticité de cette espérance dans la grâce qui sera apportée par son influence grandissante dans notre vie actuelle, tous les jours. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je vous donne juste deux passages pour vous montrer que l'influence que devrait avoir l'espérance du retour du Seigneur doit changer notre vie aujourd'hui. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Donc, un premier passage pour nous montrer combien cette espérance est authentique et authentifiée par ma conduite, son impact sur ma conduite aujourd'hui, chaque jour. Il dit, Jean, ici, « Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, on parle de son retour, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et vous voyez l'impact et l'application? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ici, Jean déclare deux faits. Il dit d'abord ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est-à-dire enfants de Dieu. Le monde ne le voit pas. Ça n'apparaît pas comme une évidence aux yeux du monde. C'est Jean qui le dit. Donc, de fait, ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu n'apparaît pas comme une évidence aux yeux du monde. Et deuxième fait qu'il dit aussi, ce que nous serons n'apparaît pas comme une évidence à nos propres yeux aussi. Donc, l'état et la condition future de racheté que nous sommes ne lui a pas été révélé par Dieu. Car Dieu n'a pas désiré nous le faire connaître. Par contre, quand nous lisons ce qui suit, nous savons, dit Jean, que lorsqu'il paraîtra, nous serons comme lui, semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez l'ordre des événements, est-ce que vous avez remarqué ici? Lorsqu'il paraîtra, d'abord, donc il paraîtra, c'est son apparition. Qu'est-ce qui suit son apparition? Ensuite, nous le verrons tel qu'il est, ou comme il est. C'est notre vision de lui, n'est-ce pas? Et en troisième lieu, nous serons semblables à lui, ou comme lui. C'est notre transformation comme lui. Donc dans l'ordre, ce qui est révélé à Jean, pour nous, c'est Jésus va revenir, donc il y aura son apparition, notre vision de lui et notre transformation comme lui. Et la Bible enseigne bien cela. Vous pouvez vérifier par exemple dans Éphésiens 4, je ne veux pas le lire ici, Éphésiens 4, 24, Colossiens 3, 10, que l'homme nouveau que nous sommes devenus à notre conversion a été créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et depuis ce jour que nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes entrés dans le plan global de Dieu pour tous les rachetés, à savoir de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Regardez Romains 8, 29 qui dit cela. Et vous savez ce que fait le Saint-Esprit maintenant par rapport à ce plan vaste que Dieu a à l'égard de tous les rachetés? Le Saint-Esprit nous transforme jour après jour après jour, de gloire en gloire. Je répète, depuis que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, Dieu va faire en sorte que ce plan vaste pour tous les rachetés, vous aussi, vous entrez dans ce plan, à savoir que vous deviendrez conforme à l'image de son Fils. Et c'est ce qu'il fait maintenant, le Saint-Esprit en nous, en train de faire l'œuvre à ce que nous soyons transformés en cette même image de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Est-ce que vous avez remarqué ici quelque chose qui frappe? C'est pour quelle raison Jean écrit cette condition, c'est future du racheté? Pourquoi il décrit cela ici? La réponse est dans ce verset, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc pour quelle raison Jean écrit sur notre condition céleste à venir? C'est pas pour une raison théologique, mais c'est pour une raison éthique. Vous voyez? Donc le chrétien qui place son espérance dans le retour de Christ, lorsqu'il paraîtra, se purifie lui-même. Cette purification n'est pas seulement dans l'aspect moral, mais aussi dans l'intégrité de notre vie de tous les jours, dans les moindres détails. Il est dit ici, puisqu'il est pur, lorsque nous le verrons, nous serons comme lui, purs. Mais je dirais, nous devons commencer déjà à nous purifier nous-mêmes maintenant. 2 Corinthiens 7, 1 dit ceci. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 que le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Mais nous avons part aussi à jouer notre rôle, à commencer dès maintenant à nous purifier nous-mêmes. J'ai rappelé l'importance de l'espérance, c'est son impact aujourd'hui. Nous serons purs comme il est pur, mais nous devons commencer à nous purifier dès maintenant. Un dernier passage pour montrer encore l'impact de l'espérance à venir sur ma vie présente. 2 Pierre chapitre 3, verset 11 et verset 14. Je vais lire versets 11 à 14. Puisque tout cela est en voie de dissolution, on parle de quoi? Vous référez le verset 10? On parle du jour du Seigneur, donc puisque tout cela est en voie de dissolution, concernant les cieux, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Vous voyez? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Quel est l'impact de cela? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochable dans la paix. L'espérance touche notre conduite chaque jour, mais touche aussi notre piété. C'est difficile, c'est à définir la piété, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire tout simplement? La piété concerne l'attitude, concerne la conduite, concerne la révérence, concerne l'intérêt profond, je dirais, pour Dieu, sa personne et pour ses intérêts. Ça touche ce domaine-là aussi, et non seulement notre conduite de chaque jour. Je dirais, comme l'apôtre Pierre dit ici, que la vérité concernant les nouveaux cieux et nouvelles terres doit approfondir notre désir de vivre de manière sainte. C'est-à-dire, séparé du péché, parce que mis à part pour Dieu. C'est ce que nous sommes et ce que nous devons être chaque jour. Et deuxième chose, que cette vérité, non seulement doit nous emparer, mais cette vérité doit s'emparer de nous-mêmes. Et cette certitude de voir que Jésus va revenir doit créer en nous le désir d'être sans tache, d'être irréprochable, inattaquable à tout point de vue. Chers frères et sœurs, ce n'est pas ma parole, c'est celle de Dieu. Cette exhortation s'adresse aussi à nous. Préparez-vous à penser. Pourquoi? Parce que nous devrions agir. Agir! Il était exhorté d'être sobre. Il était exhorté que cette espérance influence notre conduite présente. Que le Seigneur puisse toucher nos cœurs et que ça puisse devenir une réalité. Et que les gens autour de nous voient que nous sommes véritablement des lumières qui étaient avant dans les ténèbres, mais arrachées de ce monde de ténèbres, et devenues lumières dans le Seigneur, comme dit Paul. Et ainsi, dit-il, nous devrions marcher dans la lumière. Ça veut dire, notre nature, ce que nous sommes, doit être en conformité par rapport à notre position de lumière. Que Dieu nous dirige, que sa parole fasse son œuvre dans nos cœurs.